RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs, Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. On peut parler d'un bide, hein. Les ventes du dernier livre de Bruno Le Maire peinent à décoller. Seulement 1774 exemplaires vendus depuis sa sortie il y a 6 semaines. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora?
Franchement, je suis partagée.
Tu peux.
Ouais, je m'en fous.
Elle s'en fout.
Jean-Loup.
On s'en fout pas.
Frédéric.
On s'en fout pas.
La Voix française, hein, sortie donc fin mars, c'est le 6e ouvrage du ministre de l'économie en 7 ans. Peut-être le livre de trop, Frédéric?
Ouais, je crois qu'il écrit trop. Ce livre n'a rien de très passionnant.
Tu l'as lu?
Oui, je l'ai lu. Je trouve pas ça très convaincant. Ni économiquement, ni sur le fond, ça n'apporte pas grand-chose. Et déjà, quand même, 1800 livres, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, faut pas croire que... J'avais discuté une fois avec un libraire qui m'avait dit qu'en moyenne, les livres de sciences humaines, alors je sais pas si on va mettre Bruno Le Maire dans les sciences humaines, en moyenne, ça se vend à 500 exemplaires. Donc alors 1800...
Enfin, lui, c'est quand même une tête de gondole.
Ouais, mais je me suis toujours posé la question...
C'est une bonne tête de gondole.
Non, mais je me suis toujours posé la question... De qu'est-ce qui poussait les individus à acheter des livres de ministres? Je sais pas, par exemple, j'ai du mal à imaginer rentrer dans une librairie et dire tiens, je vais acheter le livre d'Edouard Philippe. Tiens, je vais acheter le livre de Bruno Le Maire. Ça me paraît un peu 20 euros jetés par la fenêtre. Mais bon, j'ai fait un effort de le lire et je trouve ça ennuyeux à périr.
Mais à titre de comparaison, Omar Sy, comédien très populaire qui a fait une promo, on l'a vu partout, hein, pour son livre, il en a vendu que 3823 exemplaires en 2 semaines. C'est une info BFM TV. Donc tu vois, c'est dur pour tout le monde, même pour Omar Sy.
Mais je sais.
Non mais alors, en fait, faudrait savoir combien son éditeur prévoyait d'en vendre et en a imprimé. Mais en fait, moi je trouve pas du tout que ce soit un bide.
Ah bon?
Déjà Bruno Le Maire qu'on avait reçu, bah regarde.
Il était venu pour son livre ici.
Bah oui, on l'avait reçu, je l'avais un peu asticoté. Et d'ailleurs, regarde, comme l'a très bien dit Frédéric, les essais de manière générale ne se vendent pas très bien. Non. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, les livres de politique se vendent très mal. Regarde, oui. Roselyne Bachelot, Manuel Valls, Marlène Schiappa, ça marche pas. C'est quelques dizaines de ou centaines au mieux d'exemplaires vendus. Donc un livre là de Bruno Le Maire à 1700, ça fait mieux que la plupart des livres de politique, et ça fait finalement déjà la moitié d'Omar Sy, qui est quand même, oui, une star très connue. Et enfin, sur un sujet quand même un peu aride, qui est l'économie, qui est un sujet qui à la fois concerne directement les Français, dont ils subissent les conséquences, mais qui en même temps ne les intéresse pas trop sur le plan théorique. Faut quand même pas se mentir.
Pas de Le Maire bashing.
Voilà. Et en plus, le contenu du livre, monsieur le ministre, si vous nous écoutez, Bruno, si tu nous regardes, le contenu du livre est quand même pas tip-top. Enfin, c'est quand même pas avec ça qui va régler les problèmes du pays.
Ah bon. C'est donc, super plat en plus, c'est hyper plat.
Excuse-moi,
une platitude.
Ça mange,
c'est déjà un succès. La roue, ça c'est la roue du succès
la
pour
roue
vous.
Multi-cash.
La roue du cash, la roue multicash. Vous venez d'entendre le signal, c'est le moment d'envoyer roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732-16.
Roue, tu l'écris comment?
R-O-U-E.
C'est important. Hein.
Et surtout pour faire le lien avec Bruno Le Maire,
oui,
les 20 000 euros ne sont pas imposés. Ils
c'est
sont
vrai,
net d'impôts.
C'est du gain de jeu.
Ça échappe à l'impôt.
Donc
c'est
20 000 euros,
c'est rare en France.
C'est la voix française.
C'est la voix française.
C'est une inscription, vous m'envoyez roue par SMS 732-16. Ensuite, on a le tirage au sort.
Et si vous envoyez avec un X, ça marche pas.
Non. Roux comme un Irlandais avec un X, ça marche pas.
Ça marche pas.
Mais, allez, on y va, on enchaîne.
Soit dit, à mon avis, le livre de Bruno Le Maire manque un peu de passage.
Il revient sur Bruno Le Maire encore.
Les GG, qui a un animal de compagnie?
Moi.
Oui. T'as quoi?
Un chat.
Ça.
Il s'appelle
Betty. Betty?
Le chat. Nausicaa.
Alain, t'as un chien aussi?
Oui, Lilo.
Non, pas de...
Bon, les GG, puisqu'ils font partie de la famille, hein, pourquoi n'aurait-on pas le droit à un congé lors de la perte de son chat ou de son chien? Bah oui, 88% des propriétaires d'animaux disent qu'il est aussi difficile de perdre un animal qu'un proche.
Que son enfant.
Mais qu'un
plus
proche.
Difficile.
On va pas dans le détail. Alors, à la SPA, depuis quelques mois, les salariés qui doivent affronter la mort de leur animal peuvent bénéficier d'un jour de congé payé. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora?
Non, on s'en fout pas.
Frédéric?
Non, on s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
L'information de nos confrères de 20 minutes. Pourquoi on s'en fout pas, Zora?
Bah parce que la perte d'un animal, c'est aussi déchirant pour la personne. Il faut digérer, c'est un chagrin, c'est... On peut... Voilà, après, je suis partagée.
Un arrêt
après,
maladie pour ça.
Ah, voilà, voilà. Après, je me dis, est-ce qu'on peut pas poser une journée de congé exceptionnelle? Oui. On peut taper dans ses congés, dire à l'employeur, j'ai perdu mon animal cette nuit, donc je viens pas demain. Et là, il peut y avoir une souplesse, mais pas en arrêt de maladie. Non, on met pas une loi et pas un congé. On peut, l'employeur peut avoir cette souplesse de dire, OK, vous pouvez prendre votre journée, je vous la décompte en RTT ou en congé. Mais de là à coller un arrêt de maladie, enfin un arrêt de...
Bon, on n'est pas obligé de, effectivement de faire une loi pour ça. Oui, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que faire de la place pour un deuil pour un animal, moi je dis oui mille fois, quoi. Parce qu'un animal, prenons un chat, je veux dire, ils peuvent nous accompagner, je sais de quoi je parle. 14 ans, 17 ans d'une vie, et vraiment un animal de compagnie, c'est merveilleux, quoi. Et on développe des liens, alors c'est pas des liens comme avec des humains, mais
c'est des liens quand même.
Pardon, le débat est pas de savoir si on est triste quand on perd son animal, non, mais bien ça... sûr, qu'on est triste quand
est-ce
on perd.
Est-ce qu'il faut une loi? Bah non.
Quand on perd un compagnon, faut-il instaurer un jour de congé?
Non, une souplesse. Qu'on peut trouver avec son employeur.
Dans un pays où déjà on travaille pas énormément.
Non,
ça a une souplesse avec son employeur, on n'a pas besoin que l'État intervienne là-dessus.
T'avais une réunion à 9h et t'as perdu ton animal dans la nuit.
Alors, t'as perdu ton poisson rouge.
Voilà, alors c'est ça le problème. Et si c'est le hamster ou le poisson rouge?
Ou le serpent, la tarentule.
Le varan.
Le varan de Komodo.
J'ai perdu mon varan de Komodo, j'étais très attaché. Mon alligator.
Et mon panda aussi.
Ma tortue.
Le cheval.
Ouais. Bon, bah alors là, les amis, le jour où Chipou disparaît,
Anaïs, elle prend 6 mois de congé.
Pardon, Jean-Loup.
Un an de sabbatique.
Bon, moi, je vais être un peu à rebours. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un phénomène anthropologique de ces 50 dernières années qui a été un petit peu important, qui s'appelle la déchristianisation. Et tu vois, le fait que les gens en Occident aient perdu leur repère religieux, leur repère spirituel, ça aboutit au grand n'importe quoi. Et des gens qui te disent, ça se voit qu'ils n'ont jamais perdu d'enfant, des gens qui te disent, oh oui, c'est pareil, j'ai perdu mon chat, c'est pareil que de perdre un enfant. Tu vois que là, il y a quand même une crise morale lourde de l'Occident, une perte des repères, une confusion, l'abolition de la distinction entre l'humain et l'animal, enfin, des grands repères absolument fondamentaux.
Il y a aussi le mouvement de l'antispécisme.
Le mouvement de l'antispécisme, bien sûr, et une dictature de la compassion. Voilà. Alors maintenant, il faut prendre des arrêts maladie pour tout. Voilà, une dictature compassionnelle, et je pense que nous allons droit vers la disparition de l'Occident. Voilà.
Je me souviens d'un député qui nous expliquait que la moustique, c'est
du chat à l'Occident. C'est la dérive des continents.
Moi, je comprends ce qu'il veut dire.
C'est le symbole de notre décadence.
Pas l'amour porté aux animaux, ça a toujours existé. Oui. Et c'est très louable. Mais le symbole de la décadence,
c'est les frontières.
C'est qu'on brouille les frontières.
Et les frontières, elles ont bougé sur pas mal de choses, en fait.
Oui, et là,
ça, c'est vrai que
ça va plus du tout.
Du point de vue général, c'est ça.
Non, mais la décadence, voilà.
Merci, Anaïs. Avec un petit mot des nouvelles de Marianne Soubré, notre Gégé, vous savez, qui vit à Montréal maintenant. Elle s'est lancée dans le podcast.
Ah, chouette.
Elle a lancé les 3 premiers épisodes de son podcast qui s'appelle Carabosse.
Elle raconte quoi?
Sur toutes les plateformes. C'est l'histoire d'une petite voix intérieure. Allez écouter, c'est super juste, c'est très frais, c'est avec la voix de Marianne, évidemment. Une petite voix intérieure, vous savez, cette petite voix qui vous dit, qui vous encourage, ou alors parfois qui vous pousse au renoncement. C'est vachement sympa. Allez voir, on passe un grand bonjour à
Marianne. On embrasse
très
fort.
Où est-ce qu'on les trouve, ces podcasts?
Toutes les plateformes, Apple, Spotify,
Twitter. Super, bravo. Elle continue à faire de la radio, finalement.
Exactement.